Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom.
Le retour des empires.
Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
Les pays arabes du Golfe, ces nouveaux acteurs de la diplomatie mondiale, aujourd'hui, épisode numéro 3, les Émirats Arabes Unis et autres pays. Alors, nous sommes toujours avec Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France en Arabie Saoudite, mais aussi au Qatar. Alors, lors des deux premiers épisodes consacrés à ces pays arabes du Golfe, nous avons donc parlé de l'Arabie Saoudite et du Qatar, précisément. Mais il y a un troisième acteur qu'on ne peut pas décemment oublier, qui sont justement les Émirats Arabes Unis. Comment aujourd'hui, M. Besancenot, vous pensez ce pays en termes d'influence? Quelle est sa position dans ce grand jeu?
Écoutez, je crois qu'on peut d'autant moins l'oublier que c'est à la fois ce qu'on peut appeler une success story dans le Golfe, et c'est le premier partenaire de la France dans la région. Donc, si vous voulez, quand on regarde le parcours des Émirats Arabes Unis, quand on parle d'une success story, c'est qu'effectivement, notamment avec Dubaï, ils ont été les premiers à démarrer une formule tout à fait nouvelle dans le Golfe, à sortir du schéma traditionnel du pays pétrolier et à montrer qu'ils pouvaient être des acteurs importants dans d'autres domaines. Et aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis sont devenus, on peut le dire, un espèce de hub régional, à la fois sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan touristique. C'est donc un pays qui a vraiment fait sa place et qui apparaît comme tel. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de touristes qui viennent d'Europe ou d'ailleurs à Dubaï et maintenant à Abu Dhabi, ceci montre qu'effectivement, ils ont pris une place à la fois sur le plan économique et sur le plan touristique qui est assez remarquable. En outre, il ne faut pas l'oublier, ils ont été un peu pionniers dans la région, à la fois sur le plan de l'environnement, quand vous regardez par exemple le développement de la ville Masdar, qui est une ville verte, ou dans le domaine nucléaire, où c'est le premier pays de la région à s'être engagé justement dans cette nouvelle énergie, ce qui montre qu'ils ont pris parfaitement acte, et sans doute les premiers, du fait que l'ère pétrolière, ça restait pour eux un élément majeur, mais qu'ils envisageaient l'avenir et qu'ils prenaient des mesures tout à fait concrètes pour s'adapter. Il ne faut pas oublier par ailleurs que les Émirats Arabes Unis sont un acteur politique dans la région réelle. On l'a vu, si vous voulez, dans la campagne qu'ils ont menée contre l'islam politique et qui a fait que Mohammed Ben Zayed a été vraiment l'interlocuteur de choix de l'administration Trump, qui le prenait un peu comme le porte-parole du monde arabe. Et ce n'est pas faux que le centre de gravité du monde arabe s'est aujourd'hui déplacé dans le Golfe. Et certes, l'Arabie saoudite reste le premier acteur, mais les Émirats arabes unis sont clairement le second. À cela, il faut ajouter que les Émirats arabes unis sont une puissance militaire importante, même très importante.
Et que elle est la plus importante de la région.
Oui, absolument. Ils ont développé un arsenal et on l'a vu lors de l'opération au Yémen, ils ont joué effectivement un rôle majeur. Alors, on peut discuter, encore une fois, de l'efficacité de l'opération, mais ils ont montré qu'ils avaient des capacités. Aujourd'hui, on voit la façon dont ils restent tout à fait influents, notamment au sud Yémen. Ils tiennent à contrôler également contribué à contrôler le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui montre qu'ils ont une véritable politique régionale, ils ont des intérêts à Djibouti, etc. Donc les Émirats arabes unis sont un acteur politique et sont également une puissance militaire avec laquelle il faut compter.
D'autant plus qu'ils ont été un des premiers, notamment, là on parle un petit peu de l'actualité, évidemment, avec ce qui se passe entre Israël et Gaza, ils ont été parmi les premiers à signer les fameux accords d'Abraham, donc justement sous Donald Trump. Aujourd'hui, on a surtout parlé du Qatar en termes de, comment dire, d'influenceurs diplomatiques dans entre le Hamas et Israël. Les Émirats arabes unis aujourd'hui dans ce conflit, sachant que, par exemple, très récemment, alors je ne sais plus si c'est Mohamed Ben Zayed ou un de ses ministres, a un peu renvoyé dans ses cordes Netanyahou en refusant une proposition de Netanyahou de financer, en tout cas, l'urgence humanitaire à Gaza, et en faisant une blague peut-être de mauvais goût, en disant « demandez à Zelensky ». Qu'est-ce que ça signifie, cela ?
Non, ça signifie que les Émirats arabes unis ont une politique, se voient d'ailleurs comme une puissance régionale, et ils s'estiment avoir été pionniers avec les accords d'Abraham pour effectivement faire ce qu'ils appellent une politique réaliste. C'est-à-dire que concrètement, ils savent qu'avec un certain désengagement américain, qui n'est pas aussi clair aujourd'hui, enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais avec un certain désengagement américain du Moyen-Orient, eh bien que c'était l'intérêt des pays du Golfe et des Émirats en particulier, d'avoir face à l'Iran un allié, un protecteur, appelons ça comme on le veut, mais en tout cas jouant une puissance d'équilibre, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois gardé des contacts réels avec l'Iran, et en même temps, ils prennent des garanties de sécurité, si je puis dire, avec Israël. Simplement, ce sont des gens pragmatiques. Ils se sont rendus compte qu'avec la crise de Gaza, il y avait un mouvement de l'opinion publique. Alors, peut-être pas majeur chez eux, pour des raisons évidentes, c'est que la population est limitée, il n'a pas une conscience politique majeure. Mais en réalité, ils ont bien vu ce qu'étaient les réactions dans les opinions publiques arabes. Ils y sont sensibles eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont renoncer aux accords d'Abraham, certainement pas. Ça reste un objectif de coopération. Ils sont intéressés par la coopération, notamment sécuritaire, avec Israël, mais pas simplement, également économique, touristique, enfin dans tous les domaines. Mais ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou est engagé dans une politique qu'il n'approuve pas, qui effectivement soulève la réprobation des opinions publiques du monde entier, ou quasiment. Et donc, effectivement, ils en prennent compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont nullement l'intention de renoncer à leur politique. En même temps, ils ont suspendu de facto les accords d'Abraham et ils espèrent... Et je pense qu'ils joueront un rôle dans la nouvelle définition qu'on attend. Bon, on n'est pas sorti de la crise, évidemment, mais on voit que les Américains se sont fortement réengagés, y compris sur le plan politique, avec M. Blinken, qui multiplie les réunions dans la région. Et on voit qu'aujourd'hui, les Américains sont peut-être ceux qui parlent le plus de l'après-crise, c'est-à-dire effectivement de la réorganisation de l'administration de l'autorité palestinienne, de la perspective d'un État palestinien. Et donc, il est clair que les États du Golfe joueront un rôle important dans la reconstruction de Gaza et dans... On sait par exemple que les Émirats arabes unis ont un poulain chez les Palestiniens, qui est naturellement Mohamed Dahlan. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui sera la prochaine autorité, mais ça montre que les Émirats ont l'intention de jouer leur rôle dans la redéfinition, enfin s'il y en a une, et on l'espère en tout cas, de la situation au Moyen-Orient.
Et quelles sont les relations, au fond, dans cette nouvelle recomposition de la région, précisément avec les deux autres grands acteurs diplomatiques du Golfe ? Comment Abu Dhabi s'entend avec Doha ? Comment Abu Dhabi s'entend avec Riyad ? Quels sont les points de liaison et les points de friction ?
Oui. Alors, avec le Qatar, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a eu une réconciliation de fait, mais les rapports restent frais, pour ne pas employer une autre expression. Il y a toujours une certaine méfiance de part et d'autre entre les deux pays, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des relations entre eux, y compris les Émirats Émirats arabes unis sont un des principaux clients du gaz qatari. Et même à l'époque de l'embargo, le gaz qatari continuait à être déversé dans les Émirats arabes unis. Mais il y a une certaine méfiance qui repose à la fois sur le fait que les Émirats arabes unis n'ont pas beaucoup apprécié à un moment l'émergence sur le plan de la visibilité du Qatar et surtout la chaîne Jazeera, bien entendu, et le fait que le Qatar a toujours continué à donner la parole, notamment aux frères musulmans sur la chaîne, alors que Mohamed Ben Zayed se voulait le porte-parole, enfin le fer de lance même, de la lutte contre l'islam politique. Bon, ces aspects-là n'ont pas disparu du jour au lendemain, et donc il reste certaines méfiances. Maintenant, entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, c'est différent. Ce sont de vrais partenaires. On sait que Mohamed Ben Zayed a été un peu le mentor d'MBS au début.
Et c'est un peu une petite compétition entre les deux hommes
aujourd'hui. Non, j'y arrive. C'est-à-dire, il a été un peu le mentor, où effectivement, donc, c'est même lui qui l'a vendu, si je peux dire, à l'administration Trump en disant « c'est l'intérêt des États-Unis d'avoir le gros joueur de la région, l'Arabie saoudite, changer, se transformer, être un partenaire normalisé, plus moderne, etc. » Donc ceci a effectivement existé. Bon, aujourd'hui, MBS a pris son envol, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a du côté des Émirats à la fois un sentiment un peu d'ingratitude puisqu'ils ont été ceux qui l'ont un peu poussé au début. Et puis, ils se rendent compte que les ambitions saoudiennes, celles d'MBS, sont très claires. C'est de faire en sorte que l'Arabie soit le vrai centre régional dans tous les sens du terme, à la fois sur le plan politique, c'est évident, mais également sur le plan religieux pour gardien des lieux saints. Mais ce qui est nouveau, c'est également dans d'autres domaines, c'est-à-dire sur le plan économique, la place financière de Riyad, c'est-à-dire sur le plan touristique, avec le développement de la côte ouest sur la mer Rouge, le fait de se vouloir comme le nouveau hub logistique avec les nouveaux ports sur la mer Rouge également, etc., etc. Et dans le domaine de la culture également, avec des grands projets qui concurrencent ce qui a été une spécificité émirienne ou qatari durant une longue période. Donc il y a une forme de compétition qui existe maintenant aujourd'hui. Certes, les Émirats ont sans doute une longueur d'avance, mais ils savent quelle est la capacité des Saoudiens, à la fois sur le plan financier, la volonté politique très forte d'MBS, l'enthousiasme qu'ils suscitent en Arabie saoudite. Et donc, je crois qu'ils ne se font pas d'illusions sur le fait que, dorénavant, ce sont des alliés, mais qu'il y a une certaine compétition entre eux, tout simplement parce qu'ils sont un peu sur les mêmes créneaux.
Tout à l'heure, vous disiez que Abu Dhabi a été le premier partenaire de la France dans la région. Qu'est-ce qui a fait que la France a choisi ce pays-là plutôt que l'Arabie saoudite ? Est-ce que c'est une question de personne, précisément ? Est-ce que justement MBZ avait un temps d'avance, une volonté d'avance ? Il n'y avait pas les bonnes personnes ailleurs ?
Non, mais c'est une histoire qui est plus ancienne. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment de l'indépendance des différents pays du Golfe, clairement, l'Arabie saoudite était à l'époque la chasse gardée des États-Unis. Les Britanniques étaient très fortement implantés à Koweït, à Bahreïn, à Dubaï et en Oman. Et la France avait choisi, en réalité, avec Cheikh Zayed aux Émirats arabes unis et au Qatar avec Cheikh Khalifa, un partenaire particulier, privilégié. Et donc, dès le début des indépendances, la France s'est positionnée sur les Émirats arabes unis avec Cheikh Zayed et sur le Qatar. Alors, cette relation privilégiée s'est développée. Et aujourd'hui...
Qui aboutit à un Louvre, il y a un Louvre à Abu Dhabi, la Sorbonne...
Absolument, absolument. Non, on le fait, mais un peu dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand vous regardez, c'est aux Émirats arabes unis que vous avez le plus d'entreprises françaises qui sont sur place, que vous avez le plus de Français installés sur place, qui a la seule base française que nous ayons dans la région, enfin, à part Djibouti, mais qui est sur place. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a effectivement le Louvre, Abu Dhabi, il y a la Sorbonne, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a cette relation privilégiée à laquelle il faut ajouter un lien particulier, très privilégié entre le président de la République et Mohamed Ben Zayed, qui fait qu'effectivement, il y a cette espèce de complicité, de relation forte qui demeure.
On parle toujours, donc, quand on parle des Émirats arabes unis, on parle Dubaï, on parle Abu Dhabi, mais enfin, il y a encore 5 ou 6 autres...
Ils sont 7 émirats.
Ils sont 7 en tout, voilà. Il y a 7 émirats, donc Ajman, Sharjah, Fujairah, entre autres. On en parle très rarement. Est-ce que ces petits émirats ont aussi, à l'intérieur donc, des Émirats Arabes Unis, ont-ils un pouvoir? Quels sont leurs rôles?
Si vous voulez, au point de départ, il y avait une certaine compétition entre Abu Dhabi et Dubaï. Aujourd'hui, avec le temps, le fait qu'Abu Dhabi représente 85% du territoire et des finances de la fédération, ils ont naturellement un pouvoir majeur. Mais qui n'est pas contesté. Dubaï reste le numéro 2 parce que c'est un peu le pays pionnier dans la région. C'est vraiment lui qui est un peu à l'origine de la success story, si on peut dire. Mais il existe d'autres pays et d'autres émirats qui, je pense à Sharjah, qui est juste à côté de Dubaï, qui a pris un peu le chemin de Dubaï, enfin avec peut-être moins de dynamisme, mais c'est aujourd'hui un émirat qui s'est beaucoup développé et qui compte dans la fédération. Et puis on voit Ras El Khaimah qui est en train également de prendre le train, enfin qui commence à développer son tourisme.
Et quelles sont leurs spécificités? C'est de manière économique comme Dubaï, financière comme Dubaï,
non,
ou culturelle, touristique? Quels sont leurs...
Non, c'est plutôt touristique. Alors, vous avez Fujairah, qui est le seul émirat de la région, qui est en réalité a une façade en dehors du golfe, qui se trouve en fait dans la mer d'Oman, et où effectivement les Émirats Arabes Unis ont développé quand même toute une capacité portuaire, parce qu'effectivement, en cas de problème dans le golfe, eh bien, ils ont un accès direct en dehors du détroit d'Ormuz, sur la mer d'Oman et l'océan Indien. Mais si vous voulez, leur spécificité, bon, Fujairah, c'est effectivement le port, mais maintenant les autres, c'est plutôt effectivement le tourisme qui développe à leur tour, en essayant de jouer alors sur un côté, si je puis dire, plus authentique, plus bédouin, plus nature que les autres.
Et la France joue un rôle avec ces petits émirats? Il y a des relations diplomatiques ou...
Non, mais la relation diplomatique, elle ne se fait qu'avec la fédération, par définition, mais ce qui ne veut pas dire que nos représentants sur place ne voient pas les différents...
Il y a des projets français.
Les émirs, etc. Oui, bien sûr, non, notamment à Ras El Khaimah. Enfin, moi, je connais un certain nombre de projets touristiques qui sont en cours. Mais c'est vrai que la puissance économique se retrouve à Abu Dhabi et Dubaï. Bon, alors, un peu Sharjah, les autres, c'est plus touristique, c'est plus... Mais disons qu'ils ont un poids et un poids humain dans la fédération, c'est clair.
À l'instar de ce qu'on vient de dire concernant les Émirats Arabes Unis, il y a une dimension un peu similaire, on va dire, sur l'ensemble des pays du Golfe arabique, contre les pays arabes, je veux dire. Donc, on parle beaucoup du Qatar, d'Abu Dhabi, enfin, d'Abu Dhabi et des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. Et on oublie un peu qu'il y a quand même d'autres pays qui ont beaucoup compté, notamment le Koweït, qui a été le premier, finalement, de ces pays du Golfe à être un petit peu connu, en tout cas dans le monde occidental. Bahreïn, le Sultanat d'Oman. Où en sont ces pays, notamment le Koweït?
Oui. Alors, le Koweït, il ne faut pas l'oublier, est le premier pays indépendant parmi les États du Golfe, à part l'Arabie Saoudite, évidemment. Mais le Koweït, qui a été pendant très longtemps le véritable centre du commerce des perles, qui était le pays le plus avancé sur le plan social et sur le plan politique. Il a été un acteur majeur au sein du mouvement des non-alignés, après la conférence de Bandung. Donc, ils avaient effectivement une place à part. On parlait souvent du Koweït. Bon, il lui est arrivé quelque chose de terrible avec l'invasion irakienne. Et donc, c'est un pays qui a été profondément choqué par cette invasion et les revendications irakiennes. Et aujourd'hui, c'est un pays qui a changé. Alors, il est revenu du traumatisme de l'invasion, mais il ne cherche plus à jouer le rôle qu'il avait joué autrefois. Il essaie de jouer un autre rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, placé où il est sur le plan géographique, il est à la fois voisin de 3 grands pays, c'est-à-dire effectivement d'Arabie Saoudite, de l'Irak et de l'Iran. Et il a l'intention de jouer un peu la carte à la fois dans le cadre notamment des nouvelles routes de la soie, mais également avec une perspective qui est de dire le jour où l'Irak et l'Iran sortiront de cette période de crise où ils sont l'un et l'autre d'une certaine façon, eh bien, Koweït pourra être un peu un espèce de hub régional pour ces deux pays. Le jour où il y aura une véritable reconstruction et en Iran et en Irak, eh bien, certainement, beaucoup de choses passeront par le Koweït où il y a une véritable tradition commerciale. Le problème tient à autre chose. il tient au fait que c'est à la fois la seule démocratie, entre guillemets, parmi les pays du Golfe, puisqu'ils ont un parlement élu, mais qu'en même temps, les relations entre l'exécutif et le parlement ont toujours été difficiles. Le parlement est devenu un peu le réceptacle, si je peux dire, des conservatismes, c'est-à-dire que on voit bien que les élus cherchent avant tout à défendre les intérêts de leur groupe, quel qu'il soit tribal ou autre, et donc sont plutôt un frein à la volonté de modernisation de l'émirat. On voit, il y a un grand projet qui s'appelle effectivement la vision 2035, qui est intéressant et qui ressemble un peu à ce qui se fait ailleurs dans la région, mais avec un souci de développer un certain nombre de leurs atouts, et notamment sur les îles qui sont au large de Koweït. Mais il y a toujours ce problème entre l'exécutif et le Parlement qui fait que les projets sont très longs à aboutir et que du coup, les gens hésitent à s'investir alors que ça reste un pays à fort potentiel et un pays qui a sa vision, qui a des perspectives. Mais elles n'apparaissent pas encore clairement parce que la situation régionale n'est pas stabilisée et qu'à l'intérieur, on n'a pas encore trouvé le bon équilibre entre l'exécutif et le Parlement.
Oui, et puis vous en faisiez référence tout à l'heure, ce qui s'est passé avec l'invasion irakienne a encore des conséquences aujourd'hui. On a un papier qui est sorti il y a peu de temps là sur notre site qui rappelle les problématiques avec les mines antipersonnelles qui sont toujours très très présentes. Comment se fait-il que 30 ans plus tard, on n'ait pas encore résolu au Koweït, qui quand même... C'est pas le Vietnam, quoi, en termes de topographie. Non, oui. Comment se fait-il qu'on n'ait pas résolu encore ce problème-là ?
Alors, je crois qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de reconstruction après, qui, je ne dis pas à laisser de côté cet aspect-là. Il est vrai que malheureusement, les Irakiens ont laissé évidemment des tonnes de mines dans le pays et que c'est un peu un travail considérable à faire. Alors, les priorités ont été sans doute ailleurs, c'est-à-dire la reconstruction, mais vous avez raison d'insister sur le fait que s'ils veulent réellement redevenir un pays tout à fait normal, il faudra qu'ils règlent ce problème des mines, ça c'est évident.
Il y a un autre pays qui, lui, semble être le pays un peu plus problématique, où il se passe des choses politiques de temps à autre, c'est à Bahreïn. Ça a été à peu près un des seuls pays véritablement où il y a eu une forme de printemps arabe en même temps que les autres printemps arabes qui avaient lieu en Syrie, en Tunisie ou en Égypte. Donc c'est spécifique puisque ce pays-là est majoritairement chiite au niveau de la population et le royaume, en tout cas le pouvoir, est sunnite, et c'est même un pouvoir proche de l'Arabie saoudite, c'est un royaume wahhabite.
Non, il n'est pas wahhabite. La dynastie Al-Khalifa n'est pas wahhabite, ce sont des sunnites, oui. Alors, il est vrai que la dynastie est effectivement très proche de l'Arabie saoudite et qu'aujourd'hui, économiquement, Bahreïn dépend largement, parce que ses ressources pétrolières sont très limitées, donc dépend largement d'une assistance financière venant notamment d'Arabie saoudite, mais également des Émirats arabes unis. Et c'est vrai, vous l'avez indiqué, c'est le seul pays de la région qui ait connu une forme de printemps arabe et il a fallu l'intervention de ses voisins, notamment des Saoudiens, pour rétablir l'ordre sur place. Alors aujourd'hui, il y a une volonté à la fois d'ouverture, mais en même temps, c'est vrai que c'est un pays qui a été sur le plan social plus avancé que ses voisins. On a connu un syndicalisme à une époque, alors que les autres pays ne connaissaient absolument pas. Et donc c'est un pays qui, sur le plan social, est intéressant, parce qu'il est plus avancé que les autres, mais en même temps, il n'a pas les mêmes ressources, il a ce problème d'équilibre entre sunnites et chiites à l'intérieur du pays, mais en même temps, il a de véritables perspectives avec l'aide de ses voisins. Et puis, il faut reconnaître une chose, c'est que s'il y a réellement un espèce de modus vivendi qui se crée entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ça facilitera beaucoup les choses pour le développement de Bahreïn.
Ce pays pourrait devenir comme vous disiez, pour le Koweït, qui avait la possibilité de devenir un pays de liaison dans cette région-là. Est-ce que Bahreïn, si l'Arabie saoudite et l'Iran continuent à se rapprocher, pourrait être un acteur majeur, justement,
Alors, je ne dirais pas un acteur majeur, mais en tout cas, pourrait jouer son rôle et puis connaîtrait une période, si vous voulez, d'apaisement. Parce qu'effectivement, il y a toujours eu, les Iraniens ont essayé de jouer, effectivement, à Bahreïn, au sein de la communauté chiite. Il est clair que s'il y a réellement un apaisement sérieux et durable entre l'Arabie et l'Iran, eh bien, ceci aura un impact positif sur la situation en Bahreïn, c'est clair.
Et puis enfin, il y a un dernier pays dans ce golfe arabique, c'est arabo-persique, mais là on parle vraiment que des pays arabes, qui est donc le sultanat d'Oman. Aujourd'hui, c'est un des pays dont on parle finalement le moins, mais qu'on sait qu'il est potentiellement quand même assez puissant. Puis c'est un sultanat, donc il a une dimension particulière au niveau de sa structure politique. Qu'en est-il de ce pays?
C'est un pays qui est différent des autres. C'est d'abord un empire maritime. Il ne faut pas oublier que le sultanat d'Oman avait des possessions sur la côte africaine allant jusqu'à Zanzibar, ce qui montre quand même un développement important, avec également des possessions au Baloutchistan, c'est-à-dire sur la côte indienne. Et donc, c'est un pays qui n'est pas uniquement un pays du Golfe, si je puis dire. Bon, même s'il a effectivement, avec le Musandam, une entrée dans le Golfe, c'est un pays de l'océan Indien, c'est un pays où il existe une bourgeoisie baloutche, ce qu'on ne voit pas ailleurs. C'est un pays qui a donc une culture un peu différente des autres, et c'est un pays qui a une certaine taille, une certaine population par rapport aux Émirats. Il fait à peu près la moitié de la superficie de la France. Vous avez plus de 2 millions d'Omanais. Donc, sa structure de la population est différente des Émirats, où vous avez 90% de la population qui est étrangère. Ce n'est pas le cas. Simplement, ils ont des ressources pétrolières et gazières qui sont limitées, et donc, et une population qui existe, et un territoire. Donc, c'est plutôt, de ce point de vue-là, ils sont plus proches de l'Arabie saoudite, si vous voulez, que des Émirats. En même temps, ils sont sur le plan culturel différent. Ce sont des Khalidjites qui ne sont donc, c'est une entre guillemets une secte venue du chiisme, mais qui a sa propre identité. Et donc effectivement, ils ont une histoire propre. Dès au 18e, ils jouaient le rôle d'un empire maritime. Ils ont gardé des relations fortes avec l'Iran. Parce qu'à une autre époque, lorsque la région du Dhofar était en rébellion contre la capitale, eh bien, le Shah d'Iran avait aidé le sultan de l'époque à reprendre le contrôle de ce territoire. Il en est resté, si vous voulez, une forme de reconnaissance, ou en tout cas le fait que aujourd'hui, sur le plan politique, Oman joue un rôle d'intermédiaire à la fois entre les États-Unis et l'Iran. Ils l'ont joué à plusieurs reprises. Et également, ils jouent un rôle, notamment dans le conflit du Yémen, où effectivement, donc, ils ont à la fois des contacts avec les Saoudiens et avec les autorités houthis. Donc, ils ont ce rôle politique à jouer.
Et diplomatique.
Et diplomatique, absolument. Et puis, ils tablent sur une chose. Ils sont en train de développer le port de Dukm, qui est dans le sud du sultanat, et qui est donc donnant sur l'océan Indien, parce qu'ils partent du principe qu'effectivement, s'il y a encore des difficultés dans le Golfe, eh bien, il y aura toujours un intérêt à ce qu'il y ait un accès ou une sortie directement sur l'océan Indien. Et donc, on voit bien l'intérêt que peut trouver notamment l'Arabie saoudite, mais même les Émirats arabes unis, à ce qu'il y ait justement, et on voit bien le développement du port de Dukm, qui veut en faire, alors je ne dis pas un concurrent de Dubaï, parce qu'il n'en a pas la capacité, mais en tout cas, c'est un autre accès de la péninsule arabique en dehors du Golfe, et il joue cette carte-là.
Bertrand Besancenot, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Nous avons fait en 3 épisodes un tour assez complet, je vous remercie, de tous ces pays dont on parle de plus en plus, et ceux dont on parle un peu moins, évidemment, dans cette région-là. Et pour terminer ce voyage, c'est la tradition, on va vous demander de nous lire un texte, une citation, ce que vous voulez, et puis la commenter dans la foulée.
Textes qu'on aurait pu lire. Nous avons parlé ensemble parfois de Monsieur de Montfred, pour de bonnes raisons, parce que ça, je veux dire, il symbolise assez bien sur le plan poétique cette région. Non, moi j'utiliserais plutôt un adage qui est connu dans le Golfe et qui dit en arabe, ton ami n'est pas celui qui te croit, c'est celui qui te dit la vérité. Et j'aime beaucoup cet adage, d'abord parce que le roi Abdallah, dont j'étais proche à une époque, en Arabie Saoudite, l'a récité assez souvent, en insistant sur le fait que, au-delà de tout, des accords qu'on peut signer, etc., la seule chose qui compte réellement aujourd'hui, c'est la parole donnée. Et je suis très sensible à cet aspect-là, c'est-à-dire, le roi disait souvent, vous savez, il y a quand même certaines valeurs éternelles, et bien celle de la parole donnée existe. Alors, elle est peut-être plus faible aujourd'hui, mais ça reste une valeur universelle. Et la deuxième chose, il disait, quand on dit dire la vérité, c'est aussi être réaliste. C'est-à-dire que les choses évoluent, il faut savoir les prendre pour ce qu'elles sont, et ne pas se faire trop d'illusions. C'était un sage. Bon. Et donc, j'ai toujours aimé à la fois cet adage, qui est beau et qui signifie très bien ce qu'est l'amitié. Et ça me permet de dire en conclusion toute l'empathie, toute l'amitié que j'ai pour les pays du Golfe. Parce que très souvent, ils sont présentés ou perçus comme étant des pays artificiels, des pays qui bénéficient bon, d'une richesse pétrolière, mais qui aujourd'hui n'a plus bonne presse, si on peut dire. Ils sont souvent traités de parvenus, ils sont traités de non-démocratie. Il y a toute une partie de ces critiques qu'on ne peut pas contester. Mais on oublie certaines choses. Ce sont des pays qui ont été parmi les plus pauvres au monde et qui ne sont riches, si je puis dire, que depuis 50 ans. Et quand on regarde le parcours qu'ils ont fait en 50 ans, il est très difficile de ne pas avoir une certaine sympathie pour la façon dont ils ont été gérés. Quand on me dit « mais oui, mais ils ont de l'argent, c'est normal avec le pétrole, c'est facile ». Oui, ben, l'Iran, l'Irak, l'Algérie, la Libye ont beaucoup de pétrole, ont beaucoup d'argent. Regardez ce qu'ils en ont fait. Bon. Les pays du Golfe, eux, justement, ont été beaucoup plus sages, ont été beaucoup plus raisonnables, ont été beaucoup plus pragmatiques. Et quand on voit leur développement, ce sont devenus aujourd'hui le véritable centre de gravité du monde arabe et c'est devenu un vrai pôle de stabilité, de développement dans le monde. Ce n'est pas par hasard si tout le monde aujourd'hui s'intéresse à cette région. Et donc s'ils l'ont fait, c'est justement parce qu'ils sont extrêmement pragmatiques. Ils voient que le monde a beaucoup changé. Ils ont été souvent longtemps sous la protection américaine. Ils voient qu'aujourd'hui on s'oriente vers un monde multipolaire, diversifié. Ils en ont pris acte. Pareil sur le plan même de l'énergie, quand on regarde ce qu'ils font en matière d'environnement, ils s'y sont pris tard et c'est normal parce qu'ils ont été longtemps le vrai centre pétrolier. Mais aujourd'hui, quand on regarde, ils ont pris acte de l'évolution du monde et ils sont en train de prendre le tournant. Comme me disait un jour le prince héritier d'Arabie Saoudite, oui, nous les Arabes, nous avons sans doute loupé la révolution industrielle, mais nous réussirons la révolution numérique. Et quand on est dans cette région du monde, c'est assez frappant de voir la jeunesse de la population, l'enthousiasme pour les grands projets, la volonté justement de, à la fois de préserver leurs valeurs traditionnelles et en même temps de jouer la modernité, le monde numérique. Et quand on voit cette espèce d'enthousiasme de la jeunesse, c'est très difficile de ne pas avoir de sympathie pour eux. Et ceci à un moment où on voit dans le monde musulman, il y a malheureusement des retours en arrière, comme on le voit en Afghanistan, même dans d'autres pays comme en Tunisie, par exemple. Alors que ces pays du Golfe partent peut-être d'une situation très traditionnelle, mais eux vont dans la bonne direction. Ce sont des pays qui s'ouvrent, ce sont pour nous des partenaires importants. Et donc, je voulais simplement dire ma sympathie pour ces pays. Voilà.
Bertrand Besancenot, merci.
Je vous en prie.
Le retour des empires.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.